Alors, je crois que nous allons parler tout d'abord, je crois qu'on va parler de plusieurs sujets, mais on va commencer d'abord par exposer la situation linguistique en Europe et la situation linguistique telle qu'elle se présente dans l'Union européenne actuelle, l'Europe à 15 membres, et l'Europe qui nous attend l'année prochaine, l'Europe à 25 pays membres. Vous savez que dans toute l'Europe, nous avons peut-être environ 200 langues, j'en ai retenu généralement 130 principales, mais il y a quand même en Europe 130 langues qui ont une assez grande importance pour les populations européennes. Vous allez me dire 130 langues pour l'Europe, c'est beaucoup, c'est pas énorme. Aux Philippines, on a 400 langues. Alors, 130 pour l'Europe, c'est déjà... Nous sommes déjà dans une situation privilégiée, si je peux dire. Et en plus, il ne faut pas considérer les langues comme un obstacle. Les langues, c'est la multiplicité des langues, c'est plutôt une bénédiction pour une population. C'est une variété, un ensemble de cultures, un ensemble de manifestations humaines qui se complètent, qui ont toutes leur intérêt particulier. Je vais peut-être vous dresser un tableau de la situation des langues en Europe, mais très rapidement. Nous ne savons pas grand-chose sur les habitants de l'Europe qui ont précédé les Indo-Européens. La majorité des peuples d'Europe sont des peuples indo-européens dans la proportion d'environ 9 dixièmes. Les peuples indo-européens sont arrivés dans le territoire de l'Europe il y a peut-être un peu moins, peut-être un peu plus de 4000 ans. Ça fait 4 millénaires. Bien entendu, lorsqu'ils sont arrivés, il est fort probable qu'ils ont massacré les populations. Ils en ont peut-être assimilé quelques-unes, mais à l'époque, ça se passait comme ça. Quand on envahissait un continent, on massacrait les populations locales. Tout le monde trouvait ça normal. Nos ancêtres indo-européens se trouvaient dans la vallée de l'Indus. On dit bien qu'ils n'en étaient pas originaires, on ne sait pas d'où ils sont venus. Mais enfin, ils sont partis de la vallée de l'Indus il y a environ 4 millénaires. Ils ont occupé toute l'Europe. Ils avaient déjà à l'époque des langues qui différaient probablement. Il y avait des groupes de langues, mais qui étaient toutes de la même origine. Il y avait des Slaves, il y avait des Germaniques, il y avait les Grecs, il y avait les Celtes, il y avait les Latins. Tout cela existait déjà en germe chez les envahisseurs. Dans les populations qui ont disparu, évidemment, on a une petite idée de ce qu'elles ont dû être. Il en reste encore. L'Europe, c'était en grande partie une grande plaine, et il y avait certains endroits où il y avait des montagnes inaccessibles pour les envahisseurs. C'était le Caucase et une partie des montagnes de la région cantabrique en Espagne. Donc, par miracle, nous avons encore aujourd'hui des populations qui sont composées de pra-indo-européens et qui parlent encore des langues qui existaient en Europe avant l'arrivée des indo-européens. La plus connue de nous, c'est le basque. Les basques ont gardé leur langue, bien entendu. Toutes les langues d'Europe ont eu des contacts entre elles pendant des millénaires et elles ont toutes beaucoup de points communs, mais le basque est resté quand même une langue qu'on a appelée langue japhétique, on ne sait pas pourquoi. Ce sont deux linguistes, dont l'un était un chanoine et l'autre un soviétique, qui ont, Marc et Brière, qui ont classé les langues pra-européennes dans une catégorie qu'on a appelée les langues japhétiques. Bon, je veux bien, pourquoi pas. L'erreur qu'ils ont fait, ces malheureux-là, c'est qu'ils en ont conclu que ces langues devaient avoir quelque chose en commun. Et ce qu'ils ont fait pour le prouver était ridicule, ça ne tenait pas debout. En dehors du basque, nous avons au Caucase un grand nombre de langues qui sont pra-indo-européennes. Nous avons la plus importante, celle de géorgien, avec ses variantes, le spanet et d'autres langues, mais le laz aussi, mais... La principale langue, c'est le géorgien. C'est une langue qui est parlée encore par 5 millions de personnes, 5 millions de locuteurs. Mais il y en a eu d'autres, bien sûr. Il y a eu la prague, il y a eu le, 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 toutes les langues du rameau lesbien qui sont encore parlées au Daghestan, il y en a une trentaine encore. Toutes ces langues sont des vestiges des langues parlées en Europe avant l'arrivée des Indo-Européens. Mais ce qu'on a essayé de prouver pour la parenté entre le basque et le géorgien, ça ne tenait pas debout. Avec les critères qu'on a retenus, moi j'aurais pu aussi bien prouver la parenté entre le basque et le japonais. Alors donc ça n'avait absolument aucun sens. Les 9 dixièmes de nos langues, ce sont les langues indo-européennes. Maintenant, d'autres populations sont venues à une époque relativement récente. Ce sont les finno-ougriens qui sont arrivés en Europe. Il y a eu les finnois qui sont arrivés à peu près au VIe siècle dans la région qui est aujourd'hui la Finlande. Il y a eu les estoniens qui sont de la même famille. Il y a eu les hongrois qui sont d'une même famille mais une branche assez différente. Et les hongrois sont arrivés exactement on sait quand. Ils sont arrivés en Europe en 896. Ils ont franchi la passe de Verezke dans les Carpates et ils ont débouché dans ce qu'on appelle aujourd'hui la plaine hongroise qu'ils ont appelée la Pusta. La Pusta, c'est un terme slave qui veut dire vide. C'était, paraît-il, un territoire vide. De toute façon, il y avait certainement des habitants en Pannonie, parce que ça s'appelait à l'époque, avant l'arrivée des Hongrois, avant 896, ça s'appelait la Pannonie. C'était un territoire qui avait été occupé par les Romains. Eh bien, les habitants de la Pannonie, on pense qu'en grande partie, eux aussi, ils ont été massacrés ou assimilés par la force. Enfin, on n'en sait rien. En tout cas, nous avons au centre de l'Europe un pays qui s'appelle la Hongrie et qui est devenu un pays européen, même un pays européen modèle, il faut le dire. Assez curieusement, le chef des Hongrois qui avait occupé la Pannonie s'appelait Árpád. Il avait d'ailleurs un nom qui n'était même pas finno-ougrien. Árpád, c'est un nom. Le mot vient de Arpo, qui veut dire orge. Et Árpád, c'est un surnom probablement qu'on lui avait donné. C'est un nom d'origine turque, d'origine turco-tatare en tout cas. Et Árpád voulait dire le petit orge, l'orgelet. Il avait un orgelet sur l'œil. C'est son surnom. On ne le connaît que sous le nom d'Árpád, l'orgelet. Mais ses successeurs, ont assez curieusement, ils ont cherché un moyen d'asseoir leur autorité sur toute cette région qu'ils venaient d'occuper, sur la Pannonie. C'était une grande plaine, c'était des cavaliers, ils étaient heureux d'avoir une plaine pour élever leurs chevaux. C'était un territoire qui leur convenait beaucoup. Et ils avaient des chefs, un de leurs chefs, qui est devenu Saint-Étienne, a eu une idée curieuse. Il s'est dit, pour me faire obéir, il faudrait que je donne à ma population une religion un peu organisée. Ils avaient peut-être une religion à l'époque, on ne sait même pas. On ne sait pas quelle était. On ne sait même pas s'ils en avaient une, de toute façon, les Hongrois. Et alors Árpád a eu cette idée extraordinaire. Il s'est renseigné sur les religions environnantes. Et il a envoyé des émissaires à Rome, il a envoyé des émissaires à Byzance. Il a fait son marché dans les religions ambiantes. Et on a fini par le convaincre que la religion catholique était celle qui permettait de mieux gouverner les peuples, de mieux se faire obéir et de mieux organiser les populations. Alors il a choisi la religion catholique, il est devenu Saint-Étienne, il a été couronné à Rome, on lui a mis une belle couronne sur la tête, la Sainte Couronne de Hongrie, qui est devenue le symbole national. Et nous avons au centre de l'Europe un pays qui était à l'origine entièrement catholique. Et ce pays a finalement réussi à devenir parfaitement européen. Les Finnois qui ont occupé le territoire de la Finlande actuelle au VIe siècle, eux sont entrés en contact avec les Suédois, ils ont été dominés par les Suédois et ils ont adopté eux aussi un mode de vie et des croyances tout à fait. Alors eux, chez eux, c'est devenu le protestantisme. Ils ont vécu sous l'influence hongroise. Ce sont des gens. Donc, on peut dire que les Finnois, les Estoniens aussi, ils ont été sous l'influence suédoise, comme les autres Finlandais. On peut dire que ces gens, qui étaient des non-européens, sont arrivés chez nous et se sont très rapidement civilisés, européanisés, civilisés à notre façon. Ils avaient leur civilisation avant. Hein. On trouve encore dans le Grand Nord des ancêtres des Finlandais et des Finnois et des ancêtres des Hongrois. Hein. Et ils ont des dialectes qui rappellent encore, là, qui montrent bien que leur langue était à l'origine celle des envahisseurs finnois, estoniens et hongrois. Mais ce sont, au cours d'un bon millénaire, ces gens-là sont devenus tout à fait des Européens à part entière. On peut dire que du point de vue de la civilisation, ils sont aussi Européens que nous. Il y a eu, entre toutes les langues, qu'elles aient été indo-européennes ou finno-ougriennes, dans les langues de l'Europe, et même les langues des pra-indo-européens, des basques, des géorgiens surtout, les autres ont les langues du rameau lesbien ou d'Aghestan, il y a eu influence musulmane, c'était une autre société. Mais ces populations-là dont je vais parler sont aujourd'hui tout à fait européennes, au même titre que les Européens d'origine indo-européenne qui constituent les 9 dixièmes de la population. Cette population indo-européenne, aujourd'hui, nous avons des populations slaves, des populations germaniques, des populations latines, des populations celtes et la population grecque. Ils ont des origines extrêmement proches et surtout, au cours des siècles, ils ont tellement eu de contacts qu'un Européen qui parle et qui sait lire dans une langue d'Europe peut très facilement se sentir chez lui, se sentir à son aise dans n'importe quelle langue d'Europe. Hein? Quelle que soit la langue européenne que vous étudiez, vous êtes un peu chez vous. Vous vous sentez chez vous. J'ai souvent essayé de faire comprendre ça aux gens qui n'arrivent, et c'était très difficile parce que, surtout en France, vous savez, en France, on a toujours des réactions à l'égard des langues étrangères. C'est très curieux. La connaissance des langues étrangères en France a toujours été quelque chose d'exceptionnel et d'anormal pendant très longtemps. Hein. Il m'est arrivé d'observer quelquefois que lorsqu'on montre à un Norvégien un texte rédigé en suédois ou en danois, il le regarde et il regarde de près et il commence à lire. Montrer à un Français un texte en espagnol ou en italien, en catalan ou en portugais, il le regarde et il dit « Oh, c'est pas du français. » Hein? Les Grecs avaient cette attitude à l'égard du latin, les Latins avaient cette attitude à l'égard du grec. On disait toujours à Rome « Grecum est non legitur ». C'est du grec, on ne le lira pas. Hein? C'était une instinctif. Hein? C'est pas ma langue, ça ne me concerne pas. Eh bien, cette attitude, en France, malheureusement, elle a prévalu. Et au fond, c'est en France que l'on étudie le moins de langues étrangères, de langues dites étrangères. Elles ne sont pas vraiment étrangères, nos langues d'Europe. Mais le fait qu'on les appelle étrangères, ça signifie que c'est pas de chez nous, on n'en veut pas, mettez ça de côté. Alors, on a fini par introduire, enfin, l'enseignement des langues en France. Mais malheureusement, cet enseignement se fait selon des méthodes très archaïques, très anciennes. Et l'enseignement des langues en France, il faut le dire, c'est une faillite. 9 fois sur 10, dans nos lycées français, on amène les élèves, par un moyen ou par un autre, mais souvent sans résistance, on amène généralement nos étudiants à choisir comme première langue étrangère l'anglais. L'anglais est une très belle langue, c'est une langue européenne, et c'est une langue très intéressante, mais ce n'est pas une langue du continent, c'est une langue qui a des particularités un peu gênantes, parce que pour les étudiants, bien sûr, et un peu aussi pour les Anglais d'ailleurs. Cette langue a un système orthographique qui est complètement dissocié de la prononciation. Hein? Comme on disait dans ma jeunesse, on écrit Londres et on prononce Constantinople. Hein? C'est un peu ça. Hein? Alors, c'est pas très grave, mais c'est un inconvénient de l'anglais. Cet inconvénient se retrouve dans une moindre dans une mesure moindre en français, où on ne prononce pas toujours ce qui est écrit. Mais ça existe dans pas mal de langues nationales de l'Europe. C'est assez gênant en danois, par exemple. Alors que ce n'est pas le cas pour le norvégien, ni pour le suédois, ni pour l'islandais. Mais alors, ce qui est curieux, c'est que en France, on a généralement incité les gens, de manière assez insidieuse, pas brutalement, mais au moins les 9 dixièmes, je suppose, les 9 dixièmes de nos lycéens choisissent l'anglais comme première langue étrangère. Ils ne savent pas dans quoi ils se lancent. Ils s'en aperçoivent très vite. Ils s'aperçoivent très vite que on écrit d'une certaine façon, on prononce d'une autre. Normalement, il y a aussi le système épouvantable qui consiste à enseigner au lieu de leur conseiller de l'apprendre, hein, et de les guider dans l'apprentissage de la langue. On prétend leur enseigner la langue. Vous n'enseignez pas une langue. Vous aidez quelqu'un à l'apprendre. C'est beaucoup plus simple. Il faut d'abord que le sujet ait envie d'apprendre. Le sujet n'est pas, en France surtout, n'est pas intéressé par la connaissance d'une langue étrangère à l'origine. Le malheur, c'est qu'on enseigne la langue à raison de 2 ou 3 heures par semaine pendant 8 ou 10 ans. C'est épouvantable. Ils se fatiguent, ils oublient tout à chaque fois, on recommence. Ça finit par les dégoûter. Regardez tous les étudiants qui ont fait 8 ou 10 ans d'anglais au lycée. Vous leur demandez quelles sont leurs connaissances en anglais. Avez-vous déjà lu un livre en anglais? Non. Est-ce que vous lisez fréquemment des journaux ou des revues en anglais? Non. Alors on leur dit, à quoi ça vous sert? Finalement, c'est un enseignement purement théorique. Et ça coûte des millions d'euros, des milliards de francs. Hein, ça coûte très cher et le résultat est épouvantable. Les Germaniques s'en tirent mieux que nous. En général, les Allemands, et même les Russes, je dois dire, et les Polonais aussi, pas mal de populations de nos continents, arrivent à une connaissance à peu près convenable de l'anglais. Mais en France, ce n'est pas le cas. Le malheur, c'est que nous avons toute une classe en France de personnes qui ont péniblement appris l'anglais, qui ont réussi quand même à s'en servir, ça se voit dans les relations internationales. Des Français qui choisissent de s'exprimer en anglais, bien souvent ils n'ont pas le choix, on y reviendra, et ces gens s'expriment dans un anglais très approximatif. Les anglophones, qui sont de plus en plus nombreux pour les raisons que nous allons voir, quand ils entendent un francophone s'exprimer en anglais, ils ont du mal à ne pas rire, hein, ils se cachent un peu pour... Que voulez-vous ? C'est un peu grotesque. Ce que parlent nos anglophones français, 9 fois sur 10, c'est du pidgin, c'est du créole, un créole anglais, un pidgin anglais, ce qu'on disait autrefois, on appelait ça du petit nègre. C'est triste à dire, mais c'est la réalité. Combien de fois j'ai entendu des Français s'exprimer dans une conférence internationale de façon absolument lamentable ? Mais ils en étaient très fiers. Ils avaient l'impression qu'ils allaient vraiment émerveiller les auditeurs. C'était assez gênant. J'ai entendu en particulier des exemples, nous en avons des milliers, des gens qui disaient le contraire de ce qu'ils voulaient dire, qui ne savaient pas s'exprimer. Et j'ai entendu par exemple un Français à une réunion monter à la tribune et commencer son discours par « I think ». Il n'a pas dit « I think », il a dit « I think ». Et alors, l'interprète qui interprétait vers l'allemand, a traduit « Ich denke, je coule ». Il n'a pas dit « Ich denke », il aurait dû dire « Ich denke », mais comme l'autre a dit « I think », il a dit « Ich denke ». Et après, il a continué « das », etc., « que », etc. Hein. Mais il a bien marqué le coup. Mais l'orateur n'a pas fait... Je mentionne toujours une histoire qui est arrivée il y a un peu plus d'un an seulement. La ministre danoise des Affaires étrangères, qui était très fière, comme tous ces gens, de parler l'anglais, et elle venait d'être nommée ministre. Elle a pris la parole pour la première fois, au Conseil de ministres de l'Union européenne à Bruxelles, où j'ai travaillé autrefois, mais mes collègues m'ont raconté ce qui s'était passé, et puis on en a beaucoup parlé à l'époque, il y a plus d'un an déjà. Et cette brave dame, elle a voulu expliquer qu'elle était un peu gênée de prendre la parole parce qu'elle était au début de son mandat de ministre, alors elle n'avait pas l'habitude. Et alors, pour s'excuser, elle a commencé son discours par ces mots, elle a dit « I am at the beginning of my period ». Période, quand on dit en danois période, ça veut dire le mandat, en effet. Le mandat du ministre, c'est la période. Mais malheureusement, en anglais, ce n'est pas exactement le même sens. Alors le président lui a dit, mais madame, rassurez-vous, nous comprenons très bien. Ça n'aura aucune suite, ça n'aura aucune conséquence pour la suite de nos débats. Et elle a quitté la tribune sans avoir compris. Il a fallu lui expliquer après ce qu'elle avait dit. Et ce n'était pas ce qu'elle voulait dire, évidemment. Mais des choses comme ça, celle-là, ça a fait rire tout le monde à l'époque, mais ça arrive très souvent. C'est pas toujours aussi grotesque, mais c'est quelquefois plus grave. Les gens ne disent pas toujours ce qu'ils veulent dire, et on ne comprend pas très bien ce qu'ils ont voulu dire. Et même les.
Mais il y a du sexisme là-dedans.
Comment ?
Il y a du sexisme
là-dedans.
Non,
parce qu'il se trouve. Mais vous savez, j'ai entendu des orateurs mâles qui faisaient des erreurs beaucoup plus grossières. Alors là, son erreur se comprenait. Elle a utilisé le mot dans le sens qu'on lui donne en danois. C'était pas bien grave à l'origine. Si elle avait choisi de s'exprimer en danois, on aurait interprété ce qu'elle disait dans les autres langues et il ne se serait rien passé. C'est seulement parce qu'elle a voulu choisir l'anglais. Maintenant, on en arrive à un point où, comme on dit, on ne peut pas prendre comme langue de travail toutes les langues des participants. Alors, on décide de prendre la solution du multilinguisme. C'est une bonne solution en principe. Mais qu'est-ce qu'on décide dans le cadre du multilinguisme? On dit, bien voilà, le groupe de travail va utiliser trois langues. L'anglais, l'allemand et le français. 9 fois sur 10. Au cours des débats, il n'y a plus qu'une langue qui est utilisée, c'est l'anglais. Et avec tous les inconvénients que ça peut présenter. Donc, on en arrive au monolinguisme anglais. Et c'est ça. Il y a une chose qui est particulièrement choquante dans l'Union européenne. On commence à s'en apercevoir maintenant. Il y a eu quand même, heureusement, il y a eu quelques réactions quand même. Lorsqu'on annonce un avis de vacances de poste, on placarde sur les murs, partout dans les organisations européennes, et on publie dans nos documents, des avis de vacances de poste. Pour dire quel poste est vacant, on demande à des candidats de se présenter. Et parmi les conditions sine qua non pour s'inscrire, pour se présenter à ce poste, présenter sa candidature à ce poste, il y a une condition. On dit « English mother tongue », c'est-à-dire « langue maternelle anglaise ». Le poste est réservé à quelqu'un, à un Européen, de langue maternelle anglaise. Ça veut dire que c'est pour un Britannique. Les autres peuvent aller se faire voir. Alors, même si vous savez bien l'anglais, même si vous le comprenez très bien, même si vous le comprenez parfaitement, si vous n'êtes pas de langue maternelle anglaise, le poste n'est pas pour vous. Est-ce que c'est ça l'égalité en Europe ? C'est épouvantable. Alors, on en arrive à une situation où, finalement, toutes les langues nationales sont des langues de deuxième ordre, y compris le français et l'allemand, d'ailleurs. Même lorsqu'on choisit les trois langues comme langue de travail, on aboutit toujours. Mais quand j'étais au Conseil des ministres de l'Union européenne à Bruxelles, on traduisait à partir de toutes les langues des pays membres. Mes collègues me disent aujourd'hui, les 9/10 de notre travail, et même plus, ça consiste à traduire de l'anglais, mes collègues français, de l'anglais vers le français, et mes collègues allemands, espagnols, italiens et autres, me disent, nous aussi, les 9/10 de notre travail, ça consiste en traduction à partir de l'anglais. L'anglais devient la langue pivot. Nous sommes tous égaux, mais certains sont plus égaux que d'autres. Voilà la situation dans laquelle nous sommes actuellement. Alors nous essayons toujours d'expliquer qu'il existe un moyen de choisir une langue qui ne soit pas la langue d'un pays membre et dans laquelle on puisse parler, discuter, communiquer à égalité. Quand vous parlez, quand vous discutez, quand vous communiquez avec quelqu'un en parlant sa langue, vous êtes dans une situation inférieure. Parce que vous ne vous exprimez pas comme lui, vous ne vous exprimez pas aussi bien que lui, du moins d'après ce qu'il pense, et dans tous les cas, vous êtes dans une situation d'infériorité. Le seul moyen, c'est de parler dans une langue qui n'est celle d'aucun des deux interlocuteurs. Bon, si on prend une langue nationale, votre interlocuteur ne la connaîtra peut-être pas aussi bien que vous, ou bien vous ne la connaîtrez pas aussi bien que lui, vous ne la connaissez pas au même degré. Finalement, le seul moyen de communiquer dans une situation d'égalité, c'est de recourir à une langue neutre qui ne soit la langue d'aucune nation, mais qui soit connue par les représentants de chaque nation. C'est là qu'on doit en arriver un jour. En attendant, nous essayons de résoudre le problème de l'interprétation dans les relations internationales. Ça n'est pas simple. Ah oui, je voulais vous dire aussi en passant que dans la situation actuelle, vous vous souvenez du pacte de Kyoto, le traité de Kyoto contre la pollution qui essaie de légiférer, si j'ose dire, dans le monde entier pour régler les dangers, pour traiter les dangers de la pollution à l'échelle planétaire. Ce traité qui a été signé à Kyoto, eh bien, il n'a été présenté aux signataires que dans sa version anglaise. Tous les représentants à la conférence de Kyoto ont signé un texte qui était en anglais. Il y a eu, des journalistes ont eu l'idée, très très bonne, de se renseigner auprès des signataires pour leur demander s'ils avaient tous bien compris le texte. Ils ont dit, nous avons compris dans les grandes lignes. Dans l'ensemble, c'était un bon texte, nous l'avons bien à peu près compris, mais les détails, c'est important les détails quand même, les détails, nous n'avons pas bien compris parce que nous ne maîtrisons pas suffisamment l'anglais pour comprendre ce qu'il y a dans ce texte. Et 40% des signataires étaient dans cette situation. Vous voyez, on signe un traité international très important pour l'avenir de la planète et 40% des signataires n'ont pas tout compris. Ils ont compris en gros, dans l'ensemble. C'est un peu grave. Ça ne fait pas un peu peur sur les bords? Parce qu'il y a des détails importants, vous savez. Chaque détail compte quand même. Mais finalement, c'est un bon texte, tout le monde est d'accord. Mais la façon dont on l'a signé, on aurait dû présenter le texte, ce qui se fait encore, je ne sais pas pour combien de temps, ce qui se fait encore à l'Union européenne, on présente le texte dans toutes les langues des pays participants. Bon, évidemment, ça occupe beaucoup de traducteurs. Et dans les grandes discussions, il faut des interprètes. Actuellement, nous sommes 15 pays membres, avec 11 langues officielles, nous avons besoin, lorsque nous voulons que tout le monde comprenne vraiment, dans une réunion, de 200 traducteurs. Il faut traduire à partir de 11 langues vers 10 langues. Ça fait 200 interprètes, excusez-moi. Il faut 200 traducteurs pour traduire les textes. Mais pendant la discussion, pendant la phase d'élaboration du texte, eh bien, normalement, si l'on veut que tout le monde comprenne bien, il faut 200 interprètes en cabine. C'est énorme. On ne le fait pas tout le temps, d'ailleurs. Il y a des gens qui interprètent en prenant une autre des langues comme relais, parce qu'on n'a pas toutes les combinaisons sous la main. Mais le problème va se poser maintenant. Dans l'Europe des 25, il y aura 20 langues. Ça fera 380 interprètes indispensables si on veut bien se comprendre. Trouver des interprètes qui marchent dans tous les sens, parce qu'il faudra des interprètes, par exemple, qui traduisent de l'estonien en maltais, et du maltais en grec, ou du maltais en finnois, ou du hongrois en slovène, ou du ça ne va pas être simple. Alors, on a pensé à une chose, il faudrait une langue relais. Alors, tout le monde va interpréter, tous les interprètes vont interpréter vers une langue, et à partir de cette langue pivot, on interprétera à partir des autres langues. Ce sera une grosse économie de temps, d'argent, et surtout de possibilités, parce qu'on ne trouve pas des gens qui traduisent de l'estonien en maltais. On ne trouve pas non plus des gens qui traduisent du maltais vers le hongrois ou le slovène. Ça n'existera. On aura beaucoup, il faudra les former. Tout le monde interprétera dans les conférences, pour qu'on se comprenne bien, tout le monde interprétera vers l'anglais, et de l'anglais, on interprétera vers les autres langues. Mais vous savez comment fonctionne l'interprétation ? Ce n'est pas du tout comme la traduction. Quand vous traduisez un texte, on vous apporte le texte dans la langue d'origine. Très souvent, il s'agit de problèmes très complexes dans un domaine qui ne vous est pas forcément familier. Mais le traducteur, il a quand même la possibilité, donc comme on dit, il ne sait pas tout, mais il sait où ça se trouve, il a la possibilité de se renseigner, il a la possibilité d'essayer de s'initier au domaine dont il est question, au domaine technique ou autre dont il est question. Et puis, il prend comme très souvent, c'est toujours pressé, mais bon, au lieu de faire ça rapidement en faisant des erreurs, il faut prendre tout son temps pour vérifier, très souvent vérifier un mot, vérifier une expression, vérifier ce que l'auteur a voulu dire. Ça prend un certain temps. Et quelquefois, on se donne beaucoup de mal et on n'est pas toujours sûr d'être compris parce que très souvent, si on emploie la bonne expression technique ou le bon mot technique, on n'est pas certain que tous les destinataires vont comprendre ce qu'on a dit. Alors, ça pose des problèmes. Mais néanmoins, quand on traduit un texte, on se donne beaucoup de mal pour que ça soit vraiment ce que l'auteur a écrit. L'interprète, il n'est pas dans cette situation. Il a les écouteurs, ça entre par là et ça sort par là. Et puis, il n'a pas le temps de réfléchir. Donc, l'interprétation, c'est approximatif. C'est extrêmement approximatif. Très souvent, quand on est traducteur, il arrive que dans des conférences, dans beaucoup d'endroits, on vous utilise comme interprète. Vous essayez d'expliquer aux gens, mais attention, je ne suis pas interprète, je suis traducteur, c'est un autre métier, c'est pas du tout la même chose, c'est pas le même travail. Et alors on dit, oui, mais vous comprenez, on n'en a pas, alors on n'a pas de gens qui connaissent cette langue-là, alors allez-y, allez en cabine et on parlera de ça après. C'est affolant. Et alors, plus les gens sont élevés en grade, il y a un ambassadeur, il y a un ministre, il y a un chef d'État, plus il est élevé en grade, moins il veut savoir. Non, allez-y, et puis qu'on n'en parle plus. Allez. C'est comme ça. C'est comme si vous disiez à quelqu'un, vous savez conduire une voiture, vous allez m'emmener en hélicoptère à tel endroit. C'est exactement la même chose. J'essayais de leur faire entrer dans la tête. Quelquefois, je disais aux gens, écoutez, vous savez, un traducteur, ça travaille comme une machine à écrire. Un interprète, ça travaille comme un phonographe. Si vous essayez de jouer un disque sur une machine à écrire ou de taper une lettre sur un phonographe, vous n'aurez pas des bons résultats, je le crains. Oui, c'est bien, allez, on en parlera. Allez en cabine, d'abord on a besoin de vous. Alors on fait ce qu'on peut, c'est triste, mais on arrive à faire quelque chose pour une chose pour laquelle on n'était pas. On finit par le faire, parce qu'on vous dit de le faire, et puis il n'y a pas de. Bon, de toute façon, on vous dit de toute façon, il n'y a personne d'autre, alors allez-y. Ça se passe comme ça. Mais vous savez que. Donc, pour en revenir à ce que je disais, l'interprétation, c'est quelque chose d'extrêmement approximatif. On donne de gros sens de ce qu'on a entendu. Puis on n'est pas toujours sûr d'avoir bien entendu. Il y a des orateurs qui toussent, qui crachent, qui balbutient, qui sont bègues, qui ont des accents impossibles, qui se trompent, qui disent un peu, qui ont des passages à vide ou disent un peu n'importe quoi. Le texte est très intéressant, ça tient un bout, puis tout d'un coup, il se perd dans sa phrase, il s'en mêle dans sa phrase, l'orateur, et qu'est-ce qu'il fait l'interprète dans ces cas-là ? Il ne peut pas faire la même. Alors, il essaie d'arranger. Il met des pièces et des morceaux, il emploie des petites phrases qui ne veulent rien dire. Du genre, la situation étant bien considérée, je dois dire que, à ce propos, il dit n'importe quoi pour remplir les vides, parce qu'il n'y a rien à comprendre. et puis quelque part ça crache dans le micro, ça tousse, il a rien compris. Donc c'est extrêmement approximatif. Alors ce que vous entendez à l'interprétation, c'est le gros sens, hein, le gros sens, c'est à peu près ce que l'auteur a, ce que l'orateur a dit, hein, dans la mesure où on pense avoir compris ce qu'il a dit et où c'était compréhensible. Mais ce qui est grave, si vous faites ça en prenant une langue pivot, c'est une résultante de confusion. L'interprète va interpréter approximativement, c'est normal, on ne peut pas lui demander plus, il va interpréter le gros sens de ce qu'il a dit vers l'anglais. Et puis quelqu'un va interpréter de l'anglais vers une autre langue, aussi approximativement. Ça fait deux approximations qui se suivent. Finalement, ce qui arrive au bout, ce n'est qu'une vague, et quelquefois ça marche, mais ça peut n'avoir qu'une vague ressemblance avec ce que l'orateur a dit. Déjà, j'ai mentionné souvent ce qu'avait dit le premier interprète. Vous savez, cette interprétation directe, ça ne se fait que depuis 1944-45. Autrefois, on faisait l'interprétation consécutive. On laissait l'orateur parler, on prenait des notes, hein, et puis très rapide, en sténographie, en brévigraphie, en abrégé, et puis quand l'orateur avait terminé son discours, on racontait ce qu'il avait dit. Ça s'est fait encore dans mon temps, mais plus beaucoup. Le premier interprète qui a lancé l'interprétation simultanée, c'est-à-dire que ça rentre par là, ça sort par là, interprétant immédiate, simultanée, c'est un nommé Kaminker. Ce Kaminker, c'est un type extraordinaire. C'était le père de Simone Signoret, assez curieusement. Et alors, c'est lui qui a lancé l'interprétation simultanée. Ça a fait gagner un temps énorme, parce que quand il fallait attendre la fin d'un discours pour entendre le discours dans diverses langues, hein, un discours d'une demi-heure, traduit dans trois ou quatre langues, ça faisait trois heures de perdu. Hein. Alors, c'était un peu gênant. Bon, mais Kaminker c'était un virtuose de l'interprétation simultanée, c'est lui qui a mis ça au point. Souvent, c'est le père de tous les interprètes simultanés. Et alors, un jour, un orateur, c'était aux Nations Unies, on ne sait pas si c'est vrai, mais c'est ce que tout le monde racontait, mais c'est très plausible. Un orateur aurait dit à Kaminker, vous avez dit, paraît-il, telle ou telle chose, mais c'est pas ce que j'ai dit. Et l'autre répond, non, mais c'est ce que vous auriez dû dire. Et quelquefois, c'est vrai. Quelquefois, on peut constater, dans une interprétation, on peut constater que c'est souvent le cas. Si l'interprète est assez bon, il a assez d'expérience, il comprend que l'orateur a fait fausse route et il rétablit de lui-même. Ça peut arriver. Mais il peut aussi se tromper. Il peut aussi avoir compris de travers. Hein, l'erreur est humaine, surtout dans ces conditions-là. Donc voilà la situation où nous en sommes actuellement. Je vous dis, actuellement, pour bien se comprendre, il nous faut, dans 11 langues, nous avons besoin de 200. Il faudrait théoriquement 200, un ensemble de 200 interprètes, et pour les 21 langues que nous allons avoir, eh bien, il faudrait 200 interprètes. S'il y a 20 langues, ça fera 380 interprètes. Et il faudra 380 cabines dans la salle. Aucune salle n'a 380 cabines. On n'a même pas pensé, d'ailleurs, à organiser des salles avec 380 cabines. On est un peu débordé. Alors, là-dedans, je vous dis, il existe une solution, la solution du bon sens, comme on dit toujours. Il n'y en a pas 36. Mais allez faire entendre ça. Alors, on en a discuté à l'échelon du Parlement européen et dans d'autres échelons, mais timidement. Et alors, c'est très curieux, les gens ont leur idée sur la question. Dès qu'on parle de l'espéranto, il se trouve quelqu'un pour... Alors, nous avons un cas, on en a discuté au Parlement européen. La délégation française s'est beaucoup distinguée. La représentante de la délégation française a dit « Oui, l'espéranto, c'est très bien, c'est pas mal, c'est une langue magnifique, ça c'est très bien. » Mais elle a sorti une belle chose, elle a dit « Oui, mais cette langue, ça, je crois qu'il y a la vie. Ah oui, je ne vois pas comment une langue aussi simple pourrait rendre toutes les nuances de la pensée. Elle ne voit pas, elle ne connaît pas l'espéranto, elle n'en a jamais entendu parler. Il ne s'est trouvé personne pour lui expliquer qu'une langue peut être simple sans être simpliste, hein, et qu'elle peut même être, permettre de rendre beaucoup plus de nuances que n'importe quelle langue nationale. Un débutant en espéranto arrive à former des mots qu'on ne peut pas former en français, que l'on est obligé de rendre en français par une longue périphrase pour essayer péniblement d'expliquer ce qu'on veut dire. En espéranto, on peut former beaucoup plus de mots qu'en français, et beaucoup plus facilement. Et on n'a pas besoin d'aller demander à l'académie si on a le droit de dire ce mot-là ou pas. Il suffit que le mot soit formé convenablement et qu'il soit, et aussitôt, il est compréhensible pour tous les sujets, pour tous les auditeurs. Ce n'est pas le cas pour nos langues nationales. Hein? Alors, il y a eu une réflexion d'un membre de la délégation française au Parlement européen. Quand on a parlé de l'espéranto, il dit, oui, mais alors, la position du gouvernement français, c'est que l'espéranto ne peut pas être présenté aux examens du baccalauréat. Et de toute façon, il est évident que l'espéranto n'est pas porteur d'une culture. Parce que nos langues sont toutes porteurs d'une culture. Alors, personne ne lui a expliqué que l'espéranto est porteur de toutes les cultures du monde. Et c'est ça qu'il n'a pas compris. Mais il n'y avait personne pour le lui dire. Et on a décidé, finalement, le recours à l'anglais ne pourra pas être évité. Voilà où on en arrive. Finalement, la solution, soyons tous des anglophones. Alors déjà, nous avons un anglais qui est répandu dans toute l'Europe, c'est l'anglais du rap. Les rappeurs parlent en anglais, quel anglais, hein? Mais les rappeurs s'expriment en anglais. Nous avons des quantités de techniciens qui utilisent l'anglais, chacun à sa façon. Et nous allons vraiment devenir des sous-anglophones. Hein, nous allons parler un créole anglais. Ça porte déjà un nom. C'est ce que les Anglais déjà appellent le Conglish. Vous savez qu'il existe l'English. L'Anglish, c'est l'anglais des États-Unis, l'anglais américain. Il existe l'anglish. D'ailleurs, notre sous-anglais du continent, ça sera plutôt de l'anglish que de l'english. Il ne faut pas se faire d'illusions, ça ne sera pas la langue de Shakespeare. Mais alors, déjà, ça porte un nom chez les Britanniques. Ça s'appelle le conglish. Ne croyez pas que ça veut dire con dans le sens français du mot. Hein. C'est le continental english. C'est l'anglais des continentaux. Les pauvres continentaux. Vous voyez, c'est un peu ça. Et le Conglish, c'est une variété inférieure d'English. Nous avons, bien sûr, il existe des quantités d'autres variétés. À Singapour, on a le Singlish, que les Anglais ne comprennent pas, mais tout le monde se comprend. En Singlish, à Singapour, c'est l'anglais de Singapour. Pourquoi pas? De toute façon, il existe des quantités de variétés d'anglais qui sont parlées dans le monde entier. Chacun le parle à sa façon. C'est déjà une langue internationale, si vous voulez, mais une langue de basse classe. Très souvent, c'est parlé par des illettrés, par des populations qui n'ont pas d'autres moyens de se comprendre et qui ont recours à ce qu'on appelait autrefois une langue. Par exemple, dans Polynésie, on parlait le bishlamar. C'est très joli, le bishlamar, mais évidemment, c'est très primitif. C'est un peu comme ça que la présidente, la personne qui a parlé, la chef de la délégation française, c'est Madame Lalumière, je crois, qui a parlé de ça. Elle s'imagine que l'espéranto, c'est un genre de bishlamar, une langue de primitif. C'est assez bizarre. Personne ne le lui a dit. Et comme je le dis toujours, si on le lui dit, elle ne le croira pas. Parce qu'elle ne voudra jamais savoir exactement qu'est-ce que c'est que cette langue bizarre qu'on appelle l'espéranto. Et on en est encore là. On en discute, j'espère qu'on va encore en discuter dans les instances internationales, mais finalement, la solution à laquelle tout le monde se résigne, nous ne pourrons pas éviter le recours à l'anglais. Merci. Vous voyez ce que nos étudiants français, quelles sont les connaissances de nos étudiants français en anglais? Ben, j'ai un fils qui est professeur, qui enseigne l'anglais économique à la Sorbonne. Il a affaire à des étudiants qui ont fait 10, 12 ou 15 ans d'anglais. Eh bien, lorsqu'il leur demande de s'exprimer par écrit, j'ai vu les copies, on ne trouve pas plus de 1 ou 2% des élèves capables d'aligner une ligne en anglais sans faire de faute. Et sans faire des erreurs graves et grossières. On en est là. Alors si en 12 ou 15 ans d'anglais, ils en sont là, je me demande ce que va donner l'utilisation de l'anglais comme langue internationale. Ça va devenir affolant. Et vous savez que, évidemment, l'anglais pénètre aussi dans notre langue maternelle. Quand vous écoutez la télévision, les gens à la télévision ou à la radio, vous entendez des choses ahurissantes. Hein. Les gens qui vous disent « nos fans », le sportif qui dit « nos fans nous supportent », hein, qu'est-ce que ça veut dire? Ils ne supportent pas, ils nous encouragent. Supporter, ils sont insupportables quand ils disent ça. Quand on vous dit qu'un avion s'est crashé, c'est dégoûtant. Hein. Il s'est écrasé, il ne s'est pas crashé l'avion. Et quand on vous dit que tel pays exporte des millions de barils de pétrole, qu'est-ce que c'est en français des barils? C'est grotesque. On n'a jamais dit des barils, mais on le dit couramment maintenant. J'entends des expressions. Évidemment, il y a certains cas, on dit, on n'a pas de mot français pour dire le jogging. Quand on dit jogging, on ne sait pas comment le dire en français. Tout le monde dit jogging. Mais cette situation, j'en ai été le témoin dans un pays qui est en train de s'angliciser à une vitesse colossale et personne ne s'en aperçoit, et même ceux qui en sont les victimes ne s'en aperçoivent pas. C'est assez curieux. C'est au Japon. Il y a 40 ans, au Japon, j'avais remarqué que dans la langue courante, il existait entre 10 et 15% de mots anglais courants. Personne n'en employait d'autres. Il m'arrivait quelquefois d'employer un mot purement japonais. On me reprenait pour me dire le mot anglais. Les Japonais me disent, dans un restaurant, je voulais des baguettes pour manger. Je dis, hashi gakudasai. Hashi, qu'est-ce que c'est? C'est les baguettes. C'est le mot japonais. Il existe même en espéranto. Hein? On dit hashio quand on parle des baguettes. On a pris le mot japonais parce que c'est typique, évidemment, des coutumes japonaises. Mais alors, quand je disais hashi, la serveuse du restaurant me regardait. Ah, chopusetiku! Elle disait chopsticks, hein? Mais à la japonaise. Chopusetiku! Elle m'apprenait comment il fallait dire le mot anglais. Et évidemment, depuis l'arrivée des Américains 100 ans avant au Japon, il y a eu des tas de notions culturelles qui se sont imposées et on a pris d'emblée le mot. Hein. Autrefois, on n'avait que des tables basses, des tables comme celle-là, ça n'existait pas au Japon dans l'ancien temps. Il y a un siècle et demi, ce n'était pas connu, on n'avait que des tables basses. Et, alors, une table, il n'y avait pas d'autres mots, on disait table. Table, c'est table. Table. Un anglais ne comprend pas, mais c'est de l'anglais quand même. Quand on voulait boire un coup, on vous apportait un garasu. Garasu, c'est un glace. Bon, il n'y a pas d'autre mot. On n'a pas de mot pour le dire. Hein? On utilisait avant des petites tasses, on utilisait des quantités de soupe pour lesquelles il y avait des mots. Pour un verre à l'européenne ou à l'américaine, il n'y avait pas de mot. On a tout de suite dit garasu. Des tas de choses qui n'étaient pas d'origine, tous les mots d'objets qui n'étaient pas d'origine japonaise n'avaient pas de nom japonais. On leur donnait leur nom anglais. Dans mon temps, on utilisait encore la machine à écrire. On l'appelait taipuraita. Taipuraita, c'était le mot normal, il n'y en a pas d'autre, pour dire machine à écrire. Aujourd'hui, on dit computer, c'est l'ordinateur. Hein, computer. Quand vous arrivez à l'aéroport, ça s'appelle... Il y a un grand espace, ça s'appelle Aru-Taminaru. Aru-Taminaru, qu'est-ce que c'est là? C'est le Air-Terminal. Hein? Bon. Mais aujourd'hui, dans mon temps, ça faisait au maximum 10 à 15% des mots de la langue courante. Aujourd'hui, c'est 40%. Et ça, aujourd'hui, c'est 40% des mots. Quand vous arrivez au Japon, vous voulez faire payer quelque chose. Hein? Alors, on vous demande « Credit card ». C'est de l'anglais. Credit card. Qu'est-ce que ça veut dire? Credit card. C'est la carte de crédit. Mais il n'existe pas de mot japonais. Il n'y a que ça. Vous êtes obligé vous-même de dire credit card parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Dans mon temps, la voiture, l'automobile, il y avait un mot japonais qui voulait automobile, exactement, formé de la même façon. Hein, on disait jidosha. Aujourd'hui, on dit karu. Certains disent aussi machine. La machine. Alors, pourquoi pas. Mais finalement, dans mon temps, 10, 12, 15% maximum, aujourd'hui, 40% des mots de la langue courante sont anglais. Et personne ça ne gêne personne. C'est normal. Mais 40%, dans 40 ans, ça va faire combien? 80%? Le japonais disparaît. Le japonais parlé, je veux dire. Le japonais parlé disparaît. Au profit d'un anglais un peu spécial. Que les anglais ne comprendront pas de toute façon. À Singapour, on parle déjà le singlish, tout le monde trouve ça normal. Les anglais ne comprennent pas. Mais c'est comme ça partout. Alors, est-ce que c'est ça que nous voulons? En France, nous commençons à dire des tas de choses dans ce... nous en sommes au début de ce processus. Mais ça risque d'aller loin. Alors, finalement, puisque nos représentants sont résignés à l'usage de l'anglais comme langue internationale, hein, qu'est-ce que nous devons faire? Nous n'avons qu'une possibilité, c'est de dire nous exigeons, nous insistons pour qu'il y ait égalité entre les langues. Si nous n'avons pas l'égalité entre les langues, nous allons devenir des sujets anglophones de l'Empire britannique et de ce qu'il y a au-dessus, c'est-à-dire de la puissance américaine. Or, ce que nous voulons obtenir en Europe, dans l'organisation européenne telle qu'on est en train de la constituer actuellement, le but de la chose, qu'est-ce que c'est? C'est de vivre sur des bases communes, dans l'égalité entre les citoyens. Cette égalité va nous échapper totalement. En plus, nous ne pourrons plus. Moi, je considère que, et beaucoup de gens considèrent, que la création de l'Europe, hein, de la Fédération européenne, ça nous permettra de parler d'égal à égal avec les anglo-saxons, c'est-à-dire avec les Américains et les Anglais. Alors, chacune de nos nations séparément, devant les États-Unis, qu'est-ce que c'est? Petite poussière. Hein? Si nous sommes unis, déjà, du point de vue économique, nous pouvons représenter une entité qui peut faire contrepoids à l'influence américaine. Je ne suis pas du tout anti-américain, pas du tout. Mais j'estime que nous avons besoin d'un contrepoids. Nous ne devons pas nous unir contre les États-Unis. Nous devons nous unir pour ne pas être trop influencés par les États-Unis au point de devenir un pion américain sur l'échiquier mondial. C'est ça que nous voulons obtenir. Et ça, nous ne pouvons l'obtenir que si nous ne devenons pas des sous-anglophones. Autrement, nous allons être des béni-oui-oui. Nous allons signer des accords, nous allons signer des traités que nos représentants ne comprendront pas toujours bien dans les détails. Et certains détails seront très importants. Voilà la situation actuelle. Actuellement, on a prévu que les citoyens européens qui pourront présenter une pétition au nombre de 1 million pourront demander au Parlement européen d'examiner la question, c'est-à-dire faire une proposition de discussion sur un sujet qui nous tient à cœur, sur un sujet qui concerne l'Union européenne. Eh bien, à ce moment-là, le jour où nous aurons cela, nous pourrons, sur beaucoup de questions, présenter au nom d'un million d'Européens des 25 pays membres une proposition de discussion au Parlement européen. Nous n'en sommes pas encore là, mais ça va. Si ça se fait, il faut que nous puissions utiliser cette possibilité. Le jour où un million d'Européens demanderont au Parlement européen que l'on pose la question de l'égalité des langues, que le multilinguisme n'a pas pu résoudre, et que l'utilisation de l'anglais comme langue pivot et langue dominante ne résoudra pas non plus, À ce moment-là, nous pourrons faire entendre notre voix. Ça, c'est l'avenir. L'autre solution, vous la connaissez, c'est notre position de futur sous-anglophone.